l'actualité des idées aujourd'hui, la sensibilité est-elle devenue une nouvelle religion? Ces sujets, la laïcité, l'universalisme, les femmes, invitée la journaliste Caroline Fourest, éditorialiste par ailleurs à Marianne, auteur précédemment de Éloge du blasphème et Génie de la laïcité. Elle publie aujourd'hui un nouvel essai aux éditions Grasset et Génération offensée. Elle pointe ces minorités qui censurent au prétexte d'être offensées et l'américanisation d'une certaine manière de notre relation à l'identité et donc à l'autre. Au reproche d'appropriation, elle répond « inspiration ». Cette tyrannie de l'offense, écrit-elle, nous étouffe. Il est temps de respirer, de réapprendre à défendre l'égalité sans nuire aux libertés. Bonjour Caroline Fourest.
Bonjour Olivia.
Un mot d'abord de l'actualité. L'Élysée va la recevoir aujourd'hui, actuellement réfugiée au Canada. Elle demande asile en France. Elle est chrétienne, condamnée à mort pour blasphème avant d'avoir été acquittée au Pakistan. Au nom de quoi faut-il ou faudrait-il accueillir Asia Bibi ?
Parce que la France s'honore depuis la Révolution française à être la terre qui accorde l'asile et le refuge à tous ceux qui fuient la tyrannie et surtout qui défendent les libertés. Et en l'occurrence, je pense que le symbole que représente Asia Bibi nous correspond très bien. Elle a été condamnée au nom de ces lois infâmes qui sévissent au Pakistan, des lois qui prétendent voir un délit de blasphème, souvent d'ailleurs dans la simple expression d'une autre foi, parce que très souvent ce sont des minorités religieuses au Pakistan qui en fait sont dénoncées ou accusées par la religion dominante. Personne n'ose vraiment se dire athée au Pakistan. Et dans le cas d'Asia Bibi, c'est vraiment simplement voilà le fait d'avoir voulu boire à un puits qui était réservé aux musulmans et d'avoir simplement, lors de la dispute qui s'en est suivie, clairement été identifiée comme chrétienne, qui lui a coûté 10 ans de prison. Donc je trouve que c'est un très beau symbole que de l'accueillir au nom de notre tradition républicaine et laïque.
Voilà, au nom de cette France terre d'asile aussi, est-ce qu'elle le reste, la France, pour vous, aujourd'hui, un pays qui sait offrir l'asile à ceux qui sont blâmés, blessés, condamnés pour leurs pensées, leurs croyances?
On a tous accompagné beaucoup ces dernières années des réfugiés qui venaient de différents pays, soit parce qu'ils fuyaient pour en raison de leur orientation sexuelle, en raison de leurs idées. Si honnêtement, en termes de refuge, pour ce qui est réellement des ceux qui correspondent aux critères de l'asile politique, la France reste une terre d'asile. Il y a la question de la migration qui est beaucoup plus vaste et qui est beaucoup plus complexe. Mais les critères qui sont ceux de l'OFPRA aujourd'hui restent de beaux critères.
Génération offensée. De quelle offense parlons-nous, parlez-vous dans cet essai? Qu'est-ce qui vous a fait prendre la plume? Quelles sont ces offenses qui vous font réagir aujourd'hui?
On se sent tous offensés à des degrés divers et je pense que, sans doute parce que je peux tout à fait comprendre la rage et la colère de ceux qui découvrent la domination. Je suis passée par là et donc j'ai envie de m'adresser à eux plus particulièrement parce que sans doute c'est un trajet que je comprends. À 20 ans aussi, moi j'ai découvert la domination masculine et hétérosexiste. J'avais les cheveux très 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 courts. Je n'avais pas tous les mêmes droits que d'autres dans ce pays. Je pouvais pas me marier, je pouvais pas avoir une famille reconnue. Et j'ai connu aussi la violence du sexisme dans le milieu du travail. Je l'ai vécu très 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 brutalement, mais par contre déjà, je pense que je me battais au nom de l'universalisme et de la République depuis le départ. J'avais ces discussions avec mes camarades d'ACT UP quand je me battais pour le PAC, c'est que j'étais une des rares lesbiennes à passer en télévision à l'époque, hein, c'était il y a plus de 25 ans, et qu'on était vraiment regardés à ce moment-là comme des bêtes de foire, parce qu'il y avait très très peu d'homosexuels qui passaient à la télé, de lesbiennes encore moins. Et dans tous ces moments-là, je pense que chaque fois que j'ai eu la tentation de choisir le raccourci de uniquement me présenter comme victime, j'ai essayé de l'éviter. Et on a eu un grand débat, notamment parmi les associations LGBT, quand on nous a proposé un PAX qui était réservé uniquement aux couples homosexuels. Et ça serait, on nous le disait à l'époque, tous les partis, y compris de droite, nous disaient « comme ça, il n'y aura pas de polémique, vous l'obtiendrez sans problème ». J'étais présidente du Centre gay-lesbien à l'époque et je l'ai refusé. Et j'ai dit « non, on veut l'égalité universelle ou rien ». Et même si ça prendra plus de temps, un jour on aura le mariage pour tous parce que nous refusons ce particularisme. Donc si vous voulez, ce combat, ça fait encore une fois des années que je le mène au sein de la gauche universaliste. Mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on est en train d'être de moins en moins compris par les nouvelles générations qui sont un peu gagnées par la tentation, par une double tentation en réalité. Il y a une tentation identitaire qui malheureusement est mondiale, et il y a une tentation victimaire qui est elle aussi mondiale, mais qui vient particulièrement des États-Unis. Et la combinaison des deux ne donne pas toujours le meilleur au sein du combat pour l'égalité. Il tend de temps en temps à le faire dériver.
Alors ça, c'était la génération d'avant, la vôtre, quand vous aviez 20 ans, vous disiez...
Mais déjà, il y avait ces deux... Il y a toujours eu au sein de la gauche la tentation plus essentialiste ou la tentation plus universaliste, enfin les deux chemins. Il se trouve que maintenant, le chemin essentialiste s'est doublé d'une tentation victimaire et identitaire.
Donc ces violences machistes, hétéro-sexuées, aujourd'hui, ces violences que vous pointez, ou ces offenses en tout cas qui vous font prendre la plume, quelles sont-elles? Elles sont d'une nature différente, visiblement. En tout cas, elles semblent concerner cette génération et pas celle d'avant.
Non, et les offenses dont je parle, en tout cas... La susceptibilité dont je parle dans le livre, c'est ne concerne pas le vrai combat contre les discriminations.
Ah, vous ciblez quand même principalement les antiracistes, si on veut. Si
non,
on veut
aller sur... Je cible les censures de pièces de théâtre, de tableaux, de cours d'histoire de l'art. Par exemple, à Yale, on vient d'interdire le cours d'enseignement de l'histoire de l'art parce qu'on a estimé qu'il y avait trop d'auteurs ou trop d'artistes blancs et hétérosexuels. Et là, encore une fois, il y a toujours deux chemins dans ces affaires-là. Moi, je préfère le chemin de l'universalisme, qui est de dire, ajoutons d'autres regards, élargissons ce catalogue, revisitons notre histoire pour faire en sorte de redécouvrir des artistes qui ont été méprisés, qui ont été invisibilisés, et donc enrichir le catalogue, plutôt que de décider de censurer le cours d'histoire de l'art. Donc c'est ces censures qui sont l'objet du livre, et uniquement. Il se trouve que la plupart du temps, aujourd'hui, ces censures visent des pièces, des tableaux antiracistes. Le tableau Open Casket, par exemple, qui est un beau cas d'exemple, qui est un tableau qui rend hommage à cette photo de 1955, photo prise d'un cercueil ouvert sur le visage massacré d'un jeune noir qui vient d'être assassiné par des blancs racistes. Sa mère a souhaité qu'on ouvre ce cercueil pour qu'on voie le visage de son fils massacré. Il y a quelques années, et très récemment, une artiste, Dana Shoes, qui est une artiste peintre antiraciste, il se trouve qu'elle est blanche, mais heureusement qu'il y a encore des blancs antiracistes. Ça aide à faire à progresser la cause. Fait un tableau sur cette photo et pour lui rendre hommage. Et on déprogramme son tableau et on l'interdit parce que l'artiste est blanche et qu'elle n'a pas le droit de se mêler de souffrances noires. C'est-à-dire qu'on ne voit plus la démarche qui est celle de essayer d'éveiller au contraire le regard du plus grand nombre et d'attirer leur attention contre le racisme, on ne voit plus que la couleur de peau de l'artiste. Donc c'est ça dont il était question dans le livre.
Donc c'est pas le message d'ailleurs qui est dénoncé là, c'est l'émetteur,
complètement.
Celui qui est pointé.
Et c'est tout le problème parce que là je pense qu'on est aussi dans une façon de polémiquer de nos jours qui n'arrive plus à mettre de la nuance, qui n'arrive plus à mettre de contexte, qui n'arrive plus à se poser la question de l'intention. On est tellement tous en train de débattre des identités des uns et des autres, de savoir si ça concerne les juifs, les musulmans, si l'auteur est blanc ou si l'auteur est noir, qu'on finit par ne plus même poser la question dans le bon sens. Et la question dans le bon sens, c'est que voulait dire ce tableau? Quel était son message? Quel était le message de l'artiste? Et c'est ça vraiment le que j'appelle l'ultra-susceptibilité qui vire à la censure.
Dans tous ces cas d'offense, il y a des sensibilités qui se disent froissées, blessées. Est-ce que vous comprenez en quoi et pourquoi?
Bien sûr, encore une fois, moi aussi j'ai été être blessée, être froissée, mais ça nous arrive tous, tout le temps. Mais à un moment donné, il faut qu'on arrive simplement à ce que le combat pour l'égalité ne se transforme pas en une... On ne doit pas se fragiliser nous-mêmes au point d'avoir un épiderme si douillé qu'on va crier de la même manière si on nous marche sur le pied ou si on nous discrimine. C'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'on ne fait plus la différence entre, par exemple, la discrimination d'État. Je vous parlais du PACS et du mariage pour tous. Jusqu'à récemment, les homosexuels dans ce pays étaient discriminés par l'État. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. On ne peut pas continuer à dire que nous sommes discriminés par l'État. Nous ne le sommes plus. Ça ne veut pas dire que l'homophobie a disparu. L'homophobie existe toujours, mais c'est une discrimination qui a lieu dans la société, qui a lieu. Donc, il faut faire progresser les mentalités. Il faut faire en sorte, par exemple, que quand des jeunes lesbiennes s'expriment, que ce soit Mila ou une jeune chanteuse qui a eu le courage d'embrasser quelqu'un sur scène récemment, elles ne soient pas insultées en boucle de façon homophobe, violente et sexiste. Ça veut dire, par exemple, réguler l'incitation à la haine sur les réseaux sociaux. Et j'ai toujours été aussi, dans ma défense de la liberté d'expression, pour les lois antiracistes et pour la régulation de ce qu'on appelle le hate speech, l'incitation à la haine. Mais on vit dans ce monde très paradoxal où, pendant que le monde virtuel est devenu un permis d'insulter, de haïr, et où le racisme, la haine, le sexisme s'y déversent de façon incroyable et non régulée, dans le même temps, les mouvements antiracistes et féministes, pas tous, Encore une fois, je le redis, il y a une bataille entre la tentation victimaire et la voie universaliste, clairement. Mais une partie de l'antiracisme et du féminisme nous manque aujourd'hui, car au lieu de faire front contre cette incitation à la haine, contre la montée de l'extrême droite, qui est quand même très sérieuse, beaucoup perdent énormément d'énergie à se battre contre des tableaux, contre les suppliantes à la Sorbonne, contre la pièce Kanata d'Ariane Mouchkine du Théâtre du Soleil, qui est une des troupes les plus cosmopolites et antiracistes qui soit.
Ça, on peut vous renverser l'argument, Caroline Forest. Vous perdez aussi peut-être beaucoup d'énergie à faire un livre sur ceux qui se battent contre telle pièce, tel tableau ou tel tressage de cheveux. Du coup, la réaction est aussi peut-être disproportionnée par rapport à ce que vous voulez.
Je ne crois pas qu'écrire un livre.
Mais ça a l'air d'être important. Ça veut peut-être dire quand même plus. Est-ce qu'on peut critiquer quand même?
Est-ce que je peux juste vous répondre? Oui. Parce que ça m'amuse qu'on mette sur le même niveau le fait d'écrire un livre et le fait de vouloir censurer un livre, un tableau ou une pièce. Pardon, là aussi je pense qu'on est dans le problème de tout mettre toujours sur le même plan. Ça n'est pas la même chose. L'énergie qu'on met à censurer une œuvre n'est pas la même chose que d'écrire une œuvre. Donc écrire un livre n'est pas une réponse disproportionnée.
Non, mais c'est une part de votre engagement aujourd'hui. Donc vous y mettez de l'énergie quand même.
Oui,
à défendre aussi je pense que c'est une un universalisme et certains combats.
Oui, c'est constructif d'écrire, si vous voulez. C'est constructif d'écrire, c'est constructif de réaliser, c'est constructif de peindre. Ce qui est plus embêtant, pardon de faire encore cette différence et cette distinction, mais je pense que tout est dans l'esprit de distinguer le signifiant de l'insignifiant, c'est de vouloir censurer la parole des autres. Encore une fois, nous avons tellement, tellement à faire pour pouvoir revisiter l'histoire, redécouvrir des artistes qui ont été méprisés, qui ont été oubliés. Pourquoi passer autant de temps à vouloir interdire la parole des autres? C'est ça le sujet. Je donne l'exemple dans le livre de ce qui s'est passé avec le livre Noir, qui est un livre écrit par Tania de Montaigne, que j'ai co-édité dans la collection que je dirige chez Grasset, qui est une collection qui s'appelle Nos héroïnes, où typiquement, partant de cette démarche universaliste, nous avons décidé de demander à des auteurs femmes de redécouvrir des héroïnes femmes oubliées par l'histoire et invisibilisées par l'histoire. Tania de Montaigne choisit Claudette Colvin, qui est une de ces femmes qui ne s'est pas levée dans un bus avant Rosa Parks. On n'a pas retenu son nom. Naturellement, spontanément, elle n'a pas été retenue par l'histoire. Et c'est un livre magnifique, d'une puissance universaliste incroyable, qui nous plonge dans la peau, vraiment, de cette femme, dans ces années-là, et qui sert à éduquer contre le racisme anti-noir. Quand ce livre est adapté en bande dessinée, on s'en réjouit avec Tania, évidemment. La dessinatrice met toute son énergie à essayer de faire un très bel album. Et là, une maison d'édition qui se charge de vendre les droits en langue anglaise, la responsable de ces ventes à l'international, dit à Tania, on va pas pouvoir l'appeler Noire. Alors, vraiment, je veux dire, pourquoi on pourrait pas l'appeler Noire? Parce que la dessinatrice qui a illustré la bande dessinée est blanche. Et donc là, on s'est demandé franchement avec Tania s'il fallait appeler Blanche un album qui portait sur le racisme anti-noir simplement parce que l'illustratrice est blanche. Et c'est juste un exemple de ce que le poison identitaire peut faire dériver nos débats, nos intentions. Et encore une fois, c'est ce que je vous disais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'identité est plus importante à chaque fois que le message et que l'intention.
Alors vous pointez cette génération de millennials qui ne saurait plus ou qui se serait perdue pour cette cause un peu antiraciste et qui serait devenue des sortes de séparatistes. Quel universalisme vous défendez aujourd'hui? Est-ce que c'est un universalisme incluant, comme on dit, ou excluant? Je vous propose juste d'écouter les mots d'Étienne Balibar, qui était l'invité de la Grande Table la semaine passée.
Je me pense, je me veux et je me crois non pas un adversaire de l'universalisme, mais au contraire un défenseur, un promoteur, un théoricien de l'universalisme comme valeur fondamentale, non seulement intellectuelle, morale, mais aussi politique et institutionnelle. Donc pour moi, la question n'est pas de savoir si on est pour ou contre l'universalisme, mais c'est de savoir comment on le comprend. Bon, c'est très intéressant de discuter sur ce point avec de grands intellectuels africains, par exemple, comme Achille Mbembe ou comme Souleymane Bachir Diagne, etc. On s'aperçoit qu'ils ne sont pas les adversaires de la philosophie des Lumières en général, mais qu'ils ont évidemment une conscience aiguë du fait que cette philosophie a été simplifiée et instrumentalisée au service d'une conception de l'assimilation et de l'uniformisation et de l'homogénéisation des cultures du monde qui ne leur laisse aucune place et qui est une voie sans issue pour le monde dans lequel nous sommes entrés aujourd'hui, dans lequel la tradition de la pensée européenne a toute sa place, mais à condition de dialoguer et d'échanger avec d'autres.
Est-ce que vous partagez cette conception de l'universalisme, cet universalisme que dit défendre le philosophe Étienne Balibar, Caroline Forest?
Je pense que c'est le vrai débat. Et je pense que si l'universalisme est aussi parfois rejeté, on le voit bien là malheureusement en ce moment dans les cours de cultural studies, que c'est devenu l'ennemi, c'est parce que trop longtemps, pendant des années, pendant des décennies et même bien plus, l'universalisme a été instrumentalisé pour imposer une norme. Et oui, une norme occidentale, masculine, très clairement, c'était jusqu'à il n'y a pas si longtemps, encore une fois je reviens à ces souvenirs de militantisme pour le Pax, où la moindre demande d'égalité, c'est-à-dire de le recul des discriminations, lorsqu'on le faisait au nom d'associations LGBT, était interprétée comme un refus de l'universalisme. C'est-à-dire que l'universalisme était imposé comme une norme refusant de poser la question des discriminations et des privilèges. Donc, bien sûr, il existe, cette tentation d'utiliser l'universalisme à des fins normatives existe absolument. Mais je pense, sincèrement, que l'intérêt des minorités est de retourner, de se réclamer de l'universalisme réel, c'est-à-dire l'universalisme accompli, celui qui laisse à chacun le droit non seulement d'être traité à égale dignité, mais qui aussi laisse à chacun le droit de s'autodéterminer. C'est vraiment quelque chose de très important. C'est au nom de la Déclaration universelle des droits de l'homme que des peuples ont aussi pu revendiquer leur droit à l'autodétermination et ont pu dire à ceux qui avaient du mal à l'entendre, mais ce sont des valeurs à laquelle vous prétendez souscrire. Donc appliquez-les vraiment. Et au fond, c'est ça le combat universaliste pour l'égalité, appliqué aux minorités aussi. C'est dire, mais la République proclame l'égalité entre tous les citoyens, au lieu d'avoir une pensée anti-républicaine et anti-universaliste, mais non. On est d'accord avec ça, mais appliquons-le vraiment. Et c'est ça le chemin universaliste dont je parle. C'est évidemment un universalisme en acte qui regarde de façon très lucide ce qui fait entrave à l'accomplissement de l'égalité, à l'épanouissement de chacun, mais qui refuse aussi, et c'est ce que j'aime dans cet universalisme quand il est accompli, l'assignation.
Voilà, vous plaidez pour un universalisme qui permettrait en gros de lever l'assignation identitaire tout en concédant que
le droit de s'auto-énoncer.
Oui, ces crispations identitaires sont aussi nées peut-être des échecs de l'universalisme jusqu'ici.
Bien entendu, évidemment, mais le problème est que de vouloir sacrifier l'horizon de l'universalisme parce que nous n'y sommes pas allés assez vite ou parce que certains n'ont pas voulu regarder ce qui entravait son accomplissement assez vite, c'est pour moi là se tromper de route, parce que je pense que le chemin, le raccourci qui nous est proposé quand il s'agit de dire bon, mais puisque l'universalisme n'a pas tenu toutes ses promesses, et encore une fois c'est un horizon, ça ne sera jamais totalement accompli, c'est juste marcher dans une direction, abandonnons l'ambition universaliste, et finalement revenons chacun à une définition beaucoup plus identitaire. Là, je pense que c'est un piège, parce que sincèrement, si on commence à penser le monde uniquement en fonction de l'identité, au point de penser d'ailleurs que ces identités réduites à leur expression parfois les plus visibles, d'abord ça nous salit, parce que ça nous réduit, aucun de nous n'est qu'une seule identité, aucun de nous. Nous avons plusieurs facettes à nos identités, et j'aime cette fluidité, et j'aime que personne ne puisse nous y réduire en fonction de ce qu'il voit lui.
Mais enfin, encore, c'est ce que vous avez fait avec les identités genrées, avec les identités sexuelles dans vos combats passés, c'est ce que vous dites. Il y a un moment où il y a des discriminations, et pour des militants aujourd'hui, des personnes, se ressaisir, se réapproprier son identité pour tenter de les porter sur le devant de la scène, faire constater aussi que même si cette discrimination, elle n'est pas d'État, elle est aujourd'hui inscrite dans le quotidien
bien
de beaucoup
sûr,
de personnes.
Mais ça, personne n'a rien.
D'accord.
C'est pas du tout le sujet du livre ni du débat, parce que ça, personne n'a rien contre. Enfin, à part évidemment les discriminants.
Autrement dit, est-ce qu'il y a des bonnes identités ou des mauvaises identités à défendre?
Non, pas du tout, absolument pas. Ou alors, vous comprenez pas les deux niveaux sur lesquels j'essaie de placer le débat. Encore une fois, c'est pas du tout une question de bonne et mauvaise identité. C'est une question de savoir, pour avoir parlé de son identité, pour dénoncer une discrimination, c'est une chose. S'y enfermer et reprocher à l'autre son identité et lui interdire de débattre. Je vais rentrer concrètement dans ce qui est le fond du problème aujourd'hui dans les universités, pas seulement malheureusement anglo-saxonnes, mais aussi en France. Il y a une tentation aujourd'hui d'interdire le débat en fonction de la couleur de peau ou de l'identité de quelqu'un. Moi, je pense qu'on doit parler du sexisme avec les hommes et les femmes. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des lieux potentiellement des fois non mixtes, où des femmes peuvent exprimer une parole qui a besoin de se libérer en dehors du regard des hommes. Ça, c'est un autre moment du temps du militantisme. En revanche, je pense sincèrement que la lutte contre le sexisme, c'est un débat dont tout le monde doit pouvoir parler. Et à l'inverse, la lutte contre le racisme, c'est un débat qui concerne tout le monde. Donc aujourd'hui, et encore une fois, je reviens au sujet du livre, qui porte sur des censures concernant la littérature, des pièces de théâtre, des œuvres ou des cours à l'université. Quand on interdit à des étudiants, à des enseignants, ou tout simplement à des artistes, de toucher à certains sujets en raison de leur couleur de peau, c'est là que je pense qu'il y a une dérive identitaire qui, sincèrement, à la fin du fin, fera dériver certains antiracistes vers une vision qui rejoindra celle des dominants que nous voulons essayer de faire changer d'avis. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on perd un peu cette générosité. Sincèrement, quand on veut convaincre réellement, quand on a vraiment envie que ça aille mieux en fait, quand on voudrait vraiment que les racistes soient un peu moins racistes, que les antisémites soient un peu moins antisémites, que les homophobes soient un peu moins homophobes et un peu moins sexistes, on essaie quand même de leur parler. Et aujourd'hui, dans un monde qui est tellement violent, qui est tellement globalisé, chacun des fois, et c'est normal, c'est une tentation qu'on peut tous éprouver à des moments donnés, a envie de se replier sur soi, de se replier sur le plus petit dénominateur commun, aussi pour supporter l'adversité. Le problème, c'est que ça ne fait pas avancer le monde. Je parle du manifeste de Combat et River qui est un des manifestes qui a donné lieu à la définition de l'identité politique qui est aujourd'hui si malade aux États-Unis et qui définit au fond une tentation séparatiste comme si c'était une politique. Non, le séparatisme, ça peut nous arriver, c'est plutôt une tentation honnêtement de se replier face à l'adversité que de faire évoluer le monde. Mais c'est pas les séparatistes qui font changer le monde. C'est pas les lesbiennes séparatistes qui ont quitté le mouvement de libération des femmes dans les années 70 qui ont changé la sexualité, le droit d'avortement, nos vies et qui a abouti à l'égalité dans laquelle on est aujourd'hui. Ce sont celles qui sont restées, malgré les difficultés, malgré l'invisibilisation, au sein du mouvement de libération des femmes.
À la rentrée dernière, Justin Trudeau, en pleine campagne électorale, s'est vu confronté à des photos, vidéos publiées, dont une photo, puis donc une vidéo le montrant le visage grimé en noir. C'est ce qu'on appelle le blackface. La première fois, il s'était déguisé en Aladdin quand il était plus jeune, c'était dans les années 90, pour un gala dont le thème était les mille et une nuits. Ça a provoqué une levée de réactions. Il a dû s'en expliquer, voire s'en excuser.
Je veux d'abord dire directement aux Canadiens qui font face à de l'intolérance à tous les jours à cause de leur identité que c'est pas acceptable que dans un pays comme le nôtre, des gens soient encore victimes de racisme. Et le geste que j'ai posé, les gestes que j'ai posés ont blessé profondément ces gens-là qui doivent vivre à tous les jours avec de l'intolérance. À cause de l'historique raciste de ce geste, ce n'est jamais acceptable de foncer sa peau. J'aurais dû comprendre ça à l'époque et je n'aurais jamais dû le faire. Je m'en excuse profondément.
Bon, là, on n'est pas dans un cas de censure artistique. Mon geste a blessé. Voilà ce que semble avoir compris le Premier ministre canadien qui a présenté ses excuses. Est-ce que pour vous, Caroline Fourest, le blackface, qui est beaucoup discuté en ce moment, est une pratique raciste?
Très souvent, oui. Très souvent, le blackface, et surtout si c'est fait aux États-Unis, c'est-à-dire en pleine conscience de son histoire, qui est celle de ces acteurs de théâtre qui se grimaient pour souvent moquer des serviteurs noirs. Très souvent, si on s'inscrit dans cette histoire en la connaissant, c'est pas très fin, c'est pas très malin, et parfois c'est carrément raciste. Malheureusement aujourd'hui, on voit du blackface partout, même quand l'intention n'est absolument pas celle-là. Et encore une fois, donc, moi, j'ai pas de réponse dans l'absolu. J'essaie encore une fois d'inviter à ce que chacun analyse bien quel est le message, quelle est l'intention, quel est le contexte. Je dis juste, regardez dans quel monde on vit. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où quand même, en Inde, on s'apprête à exclure de la citoyenneté des Indiens sur la base clairement de la religion musulmane. Des musulmans sont enfermés dans des camps en Chine. Il y a une remontée du populisme d'extrême droite terrible. Il y a des zones LGBT-free maintenant en Pologne. Là, on est devant des choses extrêmement
sérieuses.
Mais là,
sérieuses. Vous repartez sur des
extrêmes. Non, mais
restons juste sur cette question culturelle parce qu'elle est intéressante.
Je reviens à Justine Trudeau.
Et aux exemples que vous donnez notamment.
Mais vous comprenez bien. Je suis désolée, je comprends bien que ça. Il y a des gens qui s'appassionnent au point de tout mettre sur le même niveau, mais moi je me refuse à considérer qu'aujourd'hui les gens les plus racistes, ceux qui doivent présenter des excuses, ceux qui doivent encore une fois mobiliser l'énergie des antiracistes, c'est Justin Trudeau, c'est une artiste antiraciste, c'est Ariane Mouchkine du Théâtre du Soleil, ou c'est l'auteur des Suppliantes qui est un auteur de, qui est un chef de troupe de théâtre antiraciste qui voulait faire une pièce pour plaider pour l'accueil des migrants. Toutes les exemples que je donne dans mon livre, au fond, quasiment, tombent quasiment toujours sur des artistes ou des personnalités antiracistes de gauche. D'ailleurs, Justin Trudeau n'est même pas universaliste. Même sur lui, ça lui tombe dessus. Donc, si vous voulez, à un moment donné, il y a un problème. C'est que ça n'est pas le racisme qui est visé. Les excuses de Justin Trudeau, il est fait, de toute façon, il s'excuse toutes les 5 minutes pour tout. Mais sincèrement, est-ce qu'on peut considérer que le fait qu'il ait participé à une fête sur Aladdin dans les années 80, si j'ai bien compris, c'est le drame de l'époque?
Ce qui est intéressant, c'est que vous abordez souvent cette question des cultures, du corps, comme des espaces presque neutres ou apolitiques. Or, vous l'avez dit vous-même, il faut peut-être se réapproprier certains codes, mais avec une pleine conscience de l'histoire de ces cultures. Et c'est ça qui est souvent reproché à ces artistes, intellectuels, hommes politiques ou autres qui reprennent des codes comme ça. On peut parler d'un exemple tout simple, celui des tresses ou celui de la musique avec le blues. Personne empêche des musiciens de reprendre un genre musical, de le faire passer d'un genre plutôt minoritaire, underground à un genre mainstream, mais est-ce que c'est possible de le faire en connaissance de cause, de savoir d'où vient le blues, ce qu'a raconté cette histoire, pourquoi elle est née, où elle est née, quel message elle délivrait, et cette sensibilité-là peut être aussi froissée.
Oui, mais évidemment, non,
que tout soit détourné sans être mais là aussi compris.
Non, mais encore une fois, d'abord, non, je ne considère pas du tout les espaces de culture comme des espaces neutres politiquement, pas du tout. Mais encore une fois, je pense qu'au contraire, c'est parce qu'on arrête de considérer qu'il existe une musique noire et une musique blanche que le racisme a reculé. Je pense que c'est parce que le blues est devenu une musique qui fait danser tout le monde, à condition bien sûr de connaître son histoire, vous avez raison, mais ça c'est intéressant. Là, typiquement...
Et d'emporter les valeurs, hein.
Mais d'emporter les valeurs, oui, aussi, mais surtout, encore une fois, aujourd'hui, les débats et les polémiques sur Internet, c'est de reprocher à Madonna, par exemple, de s'inspirer d'autres musiques. Rappelez-vous du succès de Vogue. À l'époque, personne n'aurait dit à Madonna, comment peux-tu te permettre de t'inspirer de musique des quartiers gays ou t'inspirer dans d'autres clips de la musique latino, etc. Aujourd'hui, on lui reproche. Et c'est quand même hallucinant. Au lieu de dire, ah ben c'est génial que Madonna reprenne le thème du voguing, et voilà d'où ça vient, et voilà quelle est son histoire. C'est né aussi d'une forme de musique contre la discrimination, contre la diversité. C'est une façon de transcender, de dire gay Beautiful, par exemple, ben ça c'est intéressant, ça c'est une démarche universaliste. La démarche liberticide dont je m'étonne, c'est de vouloir interdire à Madonna de s'inspirer d'autres musiques. Et d'ailleurs Madonna, honnêtement, elle s'en fiche parce qu'elle n'a plus rien à prouver. Le problème c'est que les jeunes chanteurs et les jeunes chanteuses, comme Justin Trudeau, passent toute leur journée à s'excuser. Et je suis désolée, j'ai quand même du mal à croire que ce qui aujourd'hui nuit au combat des minorités, c'est Justin Trudeau, c'est Katy Perry parce qu'elle se fait des tresses, qui d'ailleurs là aussi, qui ne sont pas des tresses que africaines. Donc en plus, dans la volonté d'interdire aux autres de vouloir s'inspirer de plusieurs cultures, non seulement on est en train de flatter une petite fibre un peu xénophobe, sincèrement, et très sectaire et très identitaire, mais en plus on devient inculte, parce que les tresses ne sont pas que africaine non plus. Et que, à l'époque de Baudérec, c'était pas un drame quand elle se tressait les cheveux d'une certaine manière, c'était même un hommage. Pourquoi aujourd'hui ça devient un sacrilège? Il y a dans cette mentalité extrêmement une recherche de pureté. Et une recherche de pureté qui ne mène jamais au
mélange. Parce qu'il y a souvent de l'ignorance dans ces récupérations ou de l'incompréhension. On ne sait pas forcément qu'on maintient des catégories ou des façons de penser, mais c'est peut-être aussi souvent, et c'est ce que précisent ces artistes ou ces militants, des catégories existantes qui n'ont jamais disparu. Autrement dit, tant que les conséquences de cette domination, et c'est vous qui avez employé le terme, Caroline Fourès, perdurent, est-ce qu'il n'est pas du rôle aussi de certains de veiller à ce que ces discriminations-là disparaissent aussi? Et tant qu'elles sont là, certains seront là pour pointer le doigt. On va écouter Solange, parce qu'elle a le cheveu revendicatif.
Ah, pardon. When it's the feelings I wear, don't touch my soul. When it's the rhythm I know, don't touch.
They see the vision I've found. Don't touch what's there.
Solange, don't touch my hair, ne touchez pas à mes cheveux, voilà, ne touchez pas à ma couronne, chante l'afro-américaine Solange qui écrit « Ils ne comprennent pas ce que cela veut dire pour moi ». Et cette chanson, elle a fait écho aussi pour toute une jeunesse afro-américaine.
Mais vous vous rendez compte d'où on en est? Non mais sérieusement, ne touchez pas à mes cheveux pour dire que si des gens, si d'autres chanteuses se font... des dreadlocks, c'est la fin du monde et que c'est un sacrilège. Mais vous vous rendez compte?
C'est pas un sacrilège, on est personne va les traîner au bûcher.
Ah bah pardon, excusez-moi, non. Les meutes d'insultes. Vous avez vu les meutes d'insultes contre Katy Perry, contre Kim Kardashian, comme si vraiment on avait l'impression que le Ku Klux Klan revenait. Mais le Ku Klux Klan revient, hein. Ça existe le Ku Klux Klan, c'est pas Katy Perry et c'est pas les gens qui se font des dreadlocks. Au Canada, un jeune humoriste antiraciste, il se trouve qu'il aime les dreadlocks, il se trouve que c'est son look, c'est son style. Est-ce qu'on a le droit de s'identifier aussi à d'autres cultures? Est-ce qu'on est obligé? Je sais pas, quand on est né blanc, est-ce qu'on est censé s'identifier à quelle culture exactement si on n'a pas le droit de s'inspirer aussi de plusieurs influences?
Alors, où est-ce qu'il y a inspiration et où est-ce qu'il y a appropriation pour vous?
Eh ben, je le dis justement dans le livre, il existe des cas d'appropriation culturelle. Et des cas qui ont été d'ailleurs, je pense, assez bien définis par le dictionnaire d'Oxford, la définition d'Oxford. Par exemple, quand on expose dans un musée en Occident des artefacts comme des bronzes du Bénin ou autres qui ont été obtenus dans des conditions douteuses, là on est dans une forme très claire d'appropriation. Même des cas moins gênants, il y a beaucoup de procès qui ont été faits abusifs à Disney parce que c'est Disney et que ça incarne les États-Unis, tout le monde a envie de leur tomber dessus, mais on est plutôt content que Disney ne fasse pas la promotion que de personnages blancs extrêmement tous les mêmes. Par contre, quand ils éditent des t-shirts Hakuna Matata et qu'ils déposent du coup à la propriété industrielle quasiment l'expression, alors que c'est une expression africaine qui est parlée par 150 millions de locuteurs africains, c'est normal que des gens leur disent « là, vous vous appropriez un peu une partie de notre langue ».
César, ce soir, Caroline Forest, Roman Polanski a décidé de ne pas y aller malgré les 12 nominations de son film. À l'AFP, il dénonce le lynchage public annoncé, ce front anti-Polanski au César, au premier rang duquel des militantes féministes. Est-ce que ça s'apparente aussi pour vous à une police de la culture?
On a combien de temps pour parler des Césars?
30 secondes.
Eh ben alors ma pensée sur ce qui est en train de se passer, malheureusement, est plus longue que ça. Je fais partie de celles qui ne se sentiraient pas bien si Roman Polanski était monté sur scène pour recevoir le César du meilleur réalisateur et une récompense qui le célèbre comme homme sans se poser la question de à quel point ça banalise la culture du viol. Et en même temps, je vais vous dire, je suis très très triste de la tournure prise par cette polémique qui, par moment, est en train de tourner beaucoup plus au dégagisme qu'à la moindre intention féministe. J'ai l'impression que le féminisme a été beaucoup beaucoup instrumentalisé dans cette affaire pour des raisons de stratégie, de concurrence, de dégager peut-être une cérémonie qui doit rester quand même une très très belle fête. Et donc on ne dissocie peut-être pas tout le temps l'œuvre de l'artiste, mais on a quand même le droit de célébrer aussi des œuvres et de garder un regard critique sur les artistes.
Merci à vous, Caroline Forest, Génération offensée, de la police de la culture à la police de la pensée. Votre nouvel essai vient de paraître chez Grasset. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table qui m'a accompagnée cette semaine à la programmation, Bruno Barada, Aurélien Delacroix et Henri Leblanc, à la préparation, Laura Dutèche-Pérez, avec l'aide précieuse de Philomène Villard et de Marceau. Vassy à la réalisation aujourd'hui, c'était Anna Holweck, avec Gilles Blanchard, et à la technique, Jean-Guilain Meige. Très bon week-end sur France Culture.